Crédit Immobilier de Banque Atlantique, la solution pour financer vos projets immobiliers, vous propose appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, bienvenue si vous nous rejoignez dans 30 minutes. Vos réactions sur les tensions entre le Niger et le Bénin. Samedi, dans un entretien télévisé, le général Abdourahmane Tani a une fois de plus laissé entendre que Cotonou abriterait des bases militaires françaises ou s'entraînerait, selon lui, des djihadistes pour déstabiliser le Niger. Des accusations graves et sans fondement, a répondu le chef de la diplomatie béninoise. En tout cas, Niamey exclut de rouvrir sa frontière avec le Bénin. Elle restera fermée, a déclaré le chef de la junte. Alors comment décrisper la situation? Quelles sont les conséquences de cette crise dans votre vie quotidienne? Vos analyses et vos témoignages, évidemment, nous intéressent. Vous nous appelez 33 9 693 693 70. Et j'ai déjà sous les yeux de nombreuses réactions postées sur Facebook et envoyées sur le compte WhatsApp d'Appel sur l'actualité. Mais d'abord, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. On va commencer en parlant de l'Ukraine. Bonjour Youssounon.
Bonjour Juan, bonjour à Anissa El Jabri, votre correspondante à Moscou.
Et bien sûr, elle nous écoute, on la salue bien évidemment. Merci de vos encouragements Youssounon. Quelles sont vos questions?
Alors Juan, j'ai lu sur le site RFI que l'Ukraine a mené une importante attaque contre des bases aériennes russes en Sibérie. C'est la première fois que l'Ukraine frappe aussi loin. Oui. Ma toute première question, comment une telle attaque a-t-elle été préparée? L'Ukraine a-t-elle bénéficié de l'aide de ses alliés?
Alors, c'est vrai que c'est la première fois depuis le début de la guerre que l'Ukraine parvient à projeter ses drones aussi loin, des drones envoyés à 4300 km du front. Franck Alexandre, bonjour.
Bonjour, Juan.
Spécialiste des questions de défense et de sécurité à RFI, que sait-on de cette opération inédite baptisée « toile d'araignée »
En tout cas, c'est une opération en long cours, puisque le président ukrainien indiquait que 18 mois de travaux avait été nécessaire pour réussir ce coup d'éclat. Et alors, en croire des images diffusées par des comptes ukrainiens, les drones explosifs étaient en fait dissimulés dans des containers transportés par des camions près des bases russes. Et une fois à proximité de leurs objectifs, eh bien, les drones, peut-être on évoque le chiffre de 150, étaient cachés donc dans ces containers. Ils se sont envolés par des trappes pour aller frapper directement leur cible. On dit que le réseau mobile russe aurait pu être utilisé pour piloter les engins à distance. Cette attaque est véritablement inédite. C'est un exploit par son ampleur, avec plusieurs dizaines de bombardiers détruits, et surtout la simultanéité de l'attaque qui exige une coordination très fine, Juan. Donc,
plusieurs bases militaires russes ont été attaquées au même moment.
Oui, quatre bases ont été visées. D'Olenia, dans l'Arctique russe, à Belaya, en Sibérie orientale. Et on a vu également des colonnes de fumée qui ont été filmées à Ivanovo, à Vostresenk, à Daguilevo. Toutes ces bases ont pour particularité d'être situées sur une ligne à l'est de Moscou, c'est-à-dire à plusieurs milliers de kilomètres de l'Ukraine, et tout abrite l'aviation à long rayon d'action.
Donc si je vous ai bien compris, Franck Alexandre, ces camions ukrainiens ont été convoyés près des bases aériennes russes, c'est-à-dire que les Ukrainiens ont pu rouler sur des centaines et des centaines de kilomètres sans être repérés par le service de renseignement russe.
Oui, les Ukrainiens indiquent que la coordination de l'attaque avait occupé des locaux juste à côté du renseignement militaire. Donc c'est fou, mais c'est en quelque sorte, plus c'est gros, plus ça passe.
Ouais. Youssounou nous demandait si les Ukrainiens ont bénéficié de l'aide des alliés pour mener cette opération.
Aucune indication sans d'une aide extérieure. En revanche, il est possible que les Ukrainiens soient appuyés sur l'intelligence artificielle fournie par des entreprises occidentales. Cette IA, vous le savez, elle permet de booster les logiciels embarqués à bord des drones, de piloter par exemple plusieurs drones à la fois, mais aussi de repérer automatiquement les cibles, et même si l'environnement est totalement brouillé.
Youssounon, vous avez une dernière question, profitez-en.
Alors Juan, ces événements risquent-ils d'impacter le processus de paix?
Franck Alexandre.
L'opération démontre en tout cas combien la Russie est vulnérable au cœur de son territoire. Ça constitue en fait un contre-argument fort à la petite musique selon laquelle la guerre évolue inévitablement en faveur de Moscou. L'opération représente, c'est ce que disent les chercheurs, hein, une immense victoire en termes de relations publiques, ce qui va contribuer grandement à renforcer peut-être le soutien à Kiev, et cela a pour effet de rétablir les équilibres au moment des négociations, même si l'Ukraine doit s'attendre, on l'imagine, à des frappes de représailles d'un Vladimir Poutine soucieux de laver l'affront.
Yosunon, voilà pour nos explications.
Très clair, Juan. Merci à Franck Alexandre.
Journaliste, spécialiste des questions de défense et de sécurité à RFI. Bonne journée à tous les deux.
Bonne journée.
Et je rappelle aux auditeurs que vos explications, Franck, sont à réécouter à tout moment sur l'application RFI Pure Radio. 10h16 à Paris. Bonjour Senna.
Bonjour Juan, bonjour tout le monde.
À Lomé, au Togo, c'est bien ça?
Oui, à Lomé, à Gué, au Togo.
Très bien. Vous avez des questions concernant le dossier épineux du Sahara occidental?
Oui, effectivement. Après les États-Unis, la France et le Kenya, le Royaume-Uni a décidé à son tour de soutenir le plan d'autonomie marocain au Sahara occidental. Je voudrais savoir comment expliquer cette position britannique?
Ah, c'est une bonne question que vous posez. Et
oui, et quel avantage le Royaume-Uni espère-t-il en tirer?
Bah écoutez, pour essayer de comprendre ce tournant opéré par le Royaume-Uni, nous avons contacté pour vous, Senna, la correspondante de RFI à Londres. Bonjour Emeline Vin.
Bonjour Juan, bonjour Senna, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous, c'est incontestablement une victoire diplomatique pour le Maroc. Expliquez-nous pourquoi Londres a décidé de s'aligner sur la position marocaine.
Oui, alors cette nouvelle position britannique, elle peut surprendre parce qu'il s'agit vraiment d'un revirement. Le plan marocain d'autonomie au Sahara occidental, il date de 2007, il a quasiment 20 ans. Et jusqu'ici, le Royaume-Uni a toujours soutenu une autre option, l'autodétermination. Alors on va peut-être faire un petit rappel. Le Sahara occidental, c'est une ancienne colonie espagnole située entre le Maroc et l'Algérie. Rabat revendique la souveraineté sur ce territoire depuis 1975, mais certains Sahraouis veulent l'indépendance. Ils sont réunis au sein d'un groupe armé, le Front Polisario, soutenu par l'Algérie. Donc, ce que le Maroc propose, c'est un plan d'autonomie, c'est-à-dire que le Sahara occidental resterait sous son autorité, mais de manière un peu plus distante. L'ONU, elle, soutient plutôt l'autodétermination. Pour en revenir au Royaume-Uni, donc, il emboîte ici le pas aux États-Unis et à la France, les autres titulaires occidentaux d'un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, eux, ils soutiennent depuis 2020 et 2022 le plan d'autonomie. Donc, le Royaume-Uni n'a pas motivé ce revirement de ce week-end, mais on peut y voir un alignement sur ses proches alliés diplomatiques.
Et quel avantage Londres espère-t-elle en tirer ?
Un avantage économique, principalement. Le ministre des Affaires étrangères britannique a profité de sa visite au Maroc pour signer quelques contrats, entre autres pour faire la publicité des entreprises britanniques, alors que le Maroc se prépare à co-organiser la Coupe du Monde du Foot en 2030 et il cherche à attirer des investissements en matière d'infrastructures, sans compter tous les accords signés ce dimanche dans les domaines de la santé, de l'innovation et de l'eau. L'économie, c'est vraiment l'axe directeur de tout ce que fait le gouvernement britannique actuel, trouver des investissements à l'étranger en particulier, pour relancer la croissance ici, au Royaume-Uni. Il y a aussi un enjeu diplomatique, on l'a évoqué. Avec ce changement de doctrine, Londres se rapproche un peu de la France, mais surtout des États-Unis. Là aussi, une politique assumée, parce que Downing Street essaye de tout faire pour ne pas se froisser avec Donald Trump.
Coach Joe, vous avez, Senna, une dernière question?
Oui, Juan, comment réagit l'Alger face à cette annonce de Londres?
Réaction algérienne, Emeline Vin?
Alors, pour l'instant, l'Algérie reste assez concise. Dans un communiqué, Alger dit regretter le choix du Royaume-Uni et juge que le plan d'autonomie soutenu par le Maroc n'a jamais été soumis aux Sahraouis. Jusqu'à maintenant, l'ONU demande à ce que ce soit ces derniers qui décident de l'avenir de leur territoire.
À suivre, donc, dossier également à lire sur notre site RFI.fr. Merci infiniment. Evelyne Vin, correspondante de RFI à Londres. Senna, bonne journée à Lomo. À Lomo. À Lomé. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer tous ceux qui nous écoutent au Togo, où il est 8h20. 33 9 693 693 70. On a des questions maintenant sur la politique migratoire départ de l'Espagne. Peut-être avez-vous entendu parler de ce projet de loi qui va à contre-courant de tous les autres pays européens. Bonjour Peggy Mombo.
Oui, bonjour Juan, bonjour à toute l'équipe de la pêche et l'actualité.
Merci, soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Oui. J'ai appris sur RFI que l'Espagne souhaite régulariser près de 500 000 migrants en situation irrégulière. Quelles sont les raisons qui justifient cette mesure du gouvernement ?
Allez, 470 000 personnes pourraient être concernées par cet immense plan de régularisation. Bonjour Antoine Declercq. Vous êtes consultant indépendant en politique migratoire, co-auteur d'un rapport sur la politique migratoire espagnole à paraître le mois prochain. Comment le gouvernement espagnol justifie-t-il cette régularisation massive de migrants alors que, je le disais en préambule, dans les autres pays européens, on envisage au contraire de durcir la législation ?
Eh bien oui, l'Espagne fait plutôt figure d'exception dans le paysage européen. Il y a deux raisons à cela. D'abord, l'Espagne est en croissance économique et donc a des besoins de main-d'œuvre, en particulier dans son secteur agricole, le bâtiment, le tourisme, l'hôtellerie, la restauration. Et puis, depuis les années 80, l'Espagne connaît un déclin démographique. Ça veut dire que sa population ne se renouvelle pas naturellement. Et donc, il compense, en quelque sorte, ce déclin démographique par l'immigration, en particulier l'immigration de travail. Alors, l'Espagne n'a pas vraiment de mécanisme pour proposer à des personnes du travail depuis les pays d'origine, et donc opère par régularisation des travailleurs déjà présents sur le territoire.
Donc les raisons sont essentiellement économiques. C'est vrai qu'il y a plusieurs secteurs où on constate bien que le pays manque de main-d'œuvre, l'hôtellerie, le tourisme en général, qui sont des secteurs qui portent la croissance du pays, croissance d'ailleurs qui ferait des jaloux au sein de l'Union européenne. Je crois que l'Espagne est à plus de 3% de croissance. Là, je parle de mémoire, Antoine Declercq. Donc, l'initiative, elle est quand même saluée par la majorité des Espagnols, par l'ensemble de la classe politique, ou au contraire, y a-t-il des réticences ?
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que l'initiative dont parle votre auditeur, elle est issue d'une initiative législative populaire. C'est un mécanisme qui existe en Espagne et qui permet à des citoyens de déposer un projet de loi signé par plus de 500 000 personnes. Cette initiative législative sur la régularisation des personnes migrantes sans papier, elle a recueilli 700 000 signatures dans la population espagnole. Elle a été soutenue pendant 2 ans par une coalition de plus de 900 ONG et puis aussi par l'Église catholique à travers la conférence épiscopale espagnole, mais aussi l'ONG Caritas. Cette initiative, elle a été déposée auprès du Congrès des députés au mois d'avril et approuvée par 89% du Congrès. Donc, à part le parti Vox, l'extrême droite, tous les députés ont approuvé la validité de cette initiative. Maintenant, le gouvernement est en train de l'étudier, est en train de préparer un projet de loi qui correspond à cette proposition, avec des discussions qui, là, sont un petit peu plus difficiles, en particulier la proposition. Elle consiste à régulariser tous les immigrés présents sur les territoires espagnols, résidants sur les territoires espagnols, avant le 31 décembre 2024.
C'est la seule condition. Vous êtes en train de répondre justement à une question que souhaitait vous poser Peggy Mombo. Il voulait savoir quels étaient les critères retenus pour ces migrants, pour qu'ils puissent bénéficier d'un titre de séjour, d'un titre de travail. Il faut juste prouver donc qu'on est bien arrivé en Espagne avant le 31 décembre dernier.
Voilà, c'est une mesure extrêmement simplifiée par rapport à d'autres programmes de régularisation qui existent ou qui ont existé par le passé en Espagne, qui reposeraient sur le simple critère de résidence sur le territoire espagnol avant le 31 décembre.
Bon, je pense qu'on a été complet. Savez-vous quand les députés vont voter ? Est-ce qu'il n'y a pas de date encore ?
Il n'y a pas encore de date. On sait que le gouvernement espagnol souhaite aller très vite sur ce projet, d'autant que il y a un autre processus de régularisation qui est en route, qui a été signifié par décret au mois de novembre et qui est en vigueur depuis le 20 mai et qui prévoyait, lui, par assouplissement de titres de régularisation, de régulariser 300 000 personnes chaque année.
Ah oui, ce qui fait donc 500 000 plus 300 000.
Oui, en fait,
à peu près. Donc, on serait à 800 000 régularisations d'ici les prochains mois. Antoine, oui, pardon, allez-y.
L'Espagne a une longue histoire de régularisation des travailleurs immigrés. Elle a régularisé plus de 1 million de personnes dans son histoire. La plus grande régularisation, c'était 2005, avec 600 000 personnes. Et un certain nombre d'économistes se sont penchés sur les effets de ces régularisations, puisqu'on a maintenant deux décennies de recul. Et ils montrent qu'en fait, ils sont très positifs d'un point de vue économique, puisqu'on sort des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes du travail informel, qui viennent ensuite cotiser auprès du système social espagnol.
Effectivement. C'est d'ailleurs ce que dit Pedro Sanchez, le chef du gouvernement espagnol. Il dit 500 000 personnes sans papier. Eh bien, ce sont 500 000 personnes qui ne cotisent pas et qui pourront cotiser si demain elles sont régularisées. Merci infiniment, Antoine Declercq, de vos explications. Je rappelle que vous êtes consultant indépendant en politique migratoire. Pemi Mombo, très bonne journée à vous. Vous nous appeliez de Cara. Cara, c'est au nord du Togo. Il nous reste 4 minutes. On va prendre une dernière question au standard. Papson, bonjour.
Bonjour Anne et bonjour à tous les auditeurs de RFI à Kamina, à l'Olomia RDC.
À Kamina, en République démocratique du Congo, la liaison téléphonique n'est pas bonne. Alors, on va tendre l'oreille, aller droit au but. Quelle est votre question?
Monsieur Anne, j'ai la question sur la direction de M. Elon Musk à la Fédération Doge,
oui,
aux États-Unis. La première, pourquoi le milliardaire a quitté ses fonctions après si peu de temps? Son bilan est-il à la hauteur des espérances qui avaient été avancées?
Alors, c'est vrai qu'il s'était fixé comme objectif, et je parle sous le contrôle de Françoise Coste, que j'accueille dans un instant, son objectif, c'était de réaliser 2000 milliards d'économies dans les dépenses publiques. Bonjour Françoise Coste.
Bonjour.
Historienne et professeure d'études américaines à l'Université de Toulouse, Jean Jaurès. Faut déjà, pour répondre à Papson, expliquer que dès le départ, la présence d'Elon Musk à la tête de ce département de l'efficacité gouvernementale, sa présence était temporaire.
Oui, il a toujours dit qu'il serait une étoile filante parce qu'il avait d'autres occupations, d'autres entreprises, bien entendu. Mais je pense que personne n'a s'attendait à ce que ce soit si rapide et que cette fin soit si piteuse.
Oui. Pardon.
Parce que...
Allez-y, oui, je vous écoute, Françoise Coste.
Il n'a pas, pour répondre à la question, réussi à trouver 2000 milliards parce que c'est beaucoup d'argent et qu'en fait, il s'est rendu compte que malgré toute cette propagande sur l'idée qu'il y a beaucoup de fraude, de gaspillage, d'abus au sein du budget du gouvernement des États-Unis, c'est pas tellement vrai, en fait. Mmh. Le budget des États-Unis, il est immense, mais le gouvernement fédéral est plutôt près de ses sous et il le dépense plutôt bien, sans trop de gaspillage.
Mais en même temps, on a vu que certaines de ces mesures ont été annulées par des tribunaux. On a vu que dans l'entourage du président Trump, certains se sont braqués après des décisions prises par Elon Musk. Donc finalement, il ne faisait pas l'unanimité au sein de l'administration, au sein de l'entourage même du président qui l'a nommé.
C'est-à-dire que c'est un bilan en demi-teinte. Il a quand même coupé dans certains budgets. Il ne faut pas nier qu'il a fait baisser la dépense fédérale, mais j'ai envie de dire dans des cibles faciles du type l'aide humanitaire. La grande agence humanitaire américaine USAID, par exemple, elle a été décimée. Donc l'aide humanitaire, la recherche médicale, le soutien aux universités, ça oui, on a coupé des milliards et des milliards de dollars. Mais effectivement, dans l'entourage de Trump, il y avait des ministres, typiquement, par exemple, le ministre de la Défense en charge du Pentagone. Là, les militaires, ils n'ont pas envie qu'on aille leur couper leur budget, qui est pourtant immense. Hein. Donc, effectivement, il y a des chasses gardées plus difficiles que d'autres à toucher dans le budget. Et les cibles faciles, il les a bien touchées, Musk, mais il n'a pas vraiment essayé de s'attaquer aux vrais cœur budgétaire des États-Unis, qui est par exemple donc la défense.
Ouais, en tout cas, il est loin de faire l'unanimité, puisqu'un sondage publié la semaine dernière nous démontre que 54% des Américains interrogés ont désapprouvé l'action d'Elon Musk. Merci infiniment, Françoise Coste, historienne, professeure d'études américaines à l'Université de Toulouse, Jean Jaurès. Papson, merci de nous écouter à Kamina, en République démocratique du Congo. Restez avec nous, on va retrouver l'ensemble du service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin, et on revient tout de suite après pour notre débat du jour. Ce matin, nous parlons des tensions entre le Niger et le Bénin, et cette annonce que la frontière restera bel et bien